C'est vraiment un beau cantique, ça. Et c'est pas pour t'enfler la tête, là, mais tu joues très bien, Mario. Franchement, là, c'est. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui, c'est ça, exactement. Il me semble que je l'aurais écouté pendant encore 10 minutes. J'ai entendu que la semaine prochaine, Martin vient pour continuer 2 Corinthiens 13. Finaliser 2 Corinthiens. Nous, on est sur 1 Corinthien. Fait que peut-être éventuellement, on viendra. C'est un épître qu'on a longuement hésité à aborder, mais en assemblée, je veux dire. Il y a des sujets délicats, mais on y va. Mais ce matin, je ne suis pas là pour parler de 2 Corinthiens. Je suis là pour continuer le survol du credo apostolique. Mais j'aimerais ça vous inviter à tourner dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Et au verset 15. Et ensuite, on va tourner dans l'épître de Jude pour lire quelques versets aussi. Donc, 1 Pierre 3, 15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Étant prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On va dans l'épître de Jude. Jude, qui est le frère du Seigneur, un des frères du Seigneur, frère de Saint, fils de Marie, comme Jacques. Mais il ne se nomme pas frère du Seigneur, hein? Il se nomme serviteur, doulos, esclave de Jésus-Christ. Et au verset 3, il dit, « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Et là, il ne faut pas comprendre que, vous savez, la foi dans le Nouveau Testament, ça a plusieurs significations. Et là, c'est pas la foi. On ne transmet pas notre foi à nos enfants. C'est pas ça que c'est en train de dire, là. La foi, c'est l'ensemble, ici, dans l'Épître de Jude, c'est l'ensemble des doctrines. C'est la base de ce qu'on croit. Et Jude va dire aussi au verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, etc., vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Et c'est ça le credo apostolique, c'est un aspect de la base des doctrines chrétiennes. Quand Pierre dit « Soyez prêts à vous défendre », c'est bien sûr, si on se défend, c'est parce qu'on est attaqué. C'est parce que, en fait, ça peut être nous qui est attaqué parfois pour nos croyances, mais ça va souvent être l'Évangile qui est attaqué, la Bible, l'autorité. Donc, est-ce qu'on est prêt à se défendre? Bien sûr, si on ne connaît pas les Écritures, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas la foi, comme le dit Jude, ça va être difficile de se défendre parce qu'on n'aura pas d'argument pour se défendre. Et le credo apostolique, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit, mais c'est comment on dit ça, là? Quelque chose qui est concentré, oui. C'est un concentré des doctrines chrétiennes. Comme j'ai dit, on croit tout ce que le credo dit, on ne peut pas croire moins que ça. Mais on croit plus que ça. Mais on ne peut pas aller en bas de ça. C'est l'essentiel. C'est ce que les croyants récitaient quand ils se faisaient baptiser. Et je suis impressionné de voir à quel point les croyants étaient connaissants. Un peu comme, on va parler de la résurrection, mais un peu comme Marthe, quand le Seigneur va ressusciter Lazare, puis il dit, le Seigneur dit à Marthe, ton frère va revenir à la vie. Elle dit, je sais, il va ressusciter. Là, comment ça qu'elle sait ça, elle? Tu sais, elle n'a pas lu les Saintes Écritures, là. Mais elle sait ça. Probablement par l'enseignement de l'Ancien Testament. Daniel parle de ça, Daniel chapitre 12, parle de la résurrection, mais elle sait ça, que son frère va ressusciter au dernier jour. C'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de dire, ce sera pas long, là, gars, tu vas pogner de quoi? On va le ressusciter. Mais elle connaît la théologie de ce qui s'en vient. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme théologie? Je vous redis ce qu'on a vu jusqu'ici, et je vous rappelle que le credo est comme divisé en trois. Deux petites phrases sur Dieu le Père. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » On en a parlé. Un grand bout, l'essence du credo est sur la personne du Seigneur Jésus. « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. » Peut-être qu'il y en a qui se rappellent de ce qu'on récitait, hein, jadis à l'Église catholique, on récitait ça. On avait hâte que ça finisse parce que après ça, on s'en allait. Et c'est là qu'on arrive ce matin, c'est là qu'on atterrit. Et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et on garde la dernière portion, ou les dernières portions, peut-être pour deux fois encore. Donc, le troisième jour, il est ressuscité. Bon, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette conversation avec quelqu'un. Il n'est pas ressuscité trois jours après, là. Parce que il a été mis en croix le vendredi, après-midi. Samedi après-midi, ça fait une journée. Et dimanche matin, ça ne fait même pas deux jours. Pourquoi on dit trois jours? On ne dit pas trois jours. On ne dit pas ça. On va dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. La résurrection est transpire tout le long du Nouveau Testament. Tout le long du Nouveau Testament, cette doctrine-là transpire. Mais Paul va y accorder un chapitre complet dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et au verset 3, regardez ce qui est écrit. « Je vous ai enseigné avant toute chose, avant tout, pardon, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Paul ne dit pas « il est ressuscité trois jours après ». Jamais la Bible dit ça. C'est toujours le troisième jour. Les jours étaient comptés du soir aller à l'autre soir. Et le vendredi, évidemment, c'est une journée, ça compte pour une journée. Le vendredi soir, c'est la deuxième journée qui commence. Donc, le vendredi soir, ça fait déjà, c'est la deuxième journée. Et le dimanche, c'est la troisième journée. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de poigne là-dedans, là. Quand on dit le troisième jour, il est ressuscité, bon, ouais, regarde la Bible. Tu crois à la Bible, elle dit le troisième jour ressuscité, puis tu sais, tu comptes comme il faut, ça n'a même pas deux jours. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Parce que si on comprend comment les jours étaient comptés, c'est le troisième jour que le Seigneur est ressuscité. Écoutez, on est devant la résurrection, le plus grand miracle du monde. Ou encore, devant la plus grande arnaque du monde. Soit que c'est le plus grand miracle qui est arrivé, ou soit que c'est la plus grande arnaque, la plus grande pogne qu'il y a eu dans l'histoire du monde. Et vraiment, tu crois ça, là, que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie? Tu crois vraiment à ça? Oui. Oui, je crois à ça. La Bible atteste ça, que le Fils de Dieu est ressuscité. On n'est pas devant une arnaque. C'est un fait théologique extrêmement important dans notre, tantôt je disais, là, le concentré de nos doctrines. La résurrection, pourtant la résurrection, c'est sûr à part quand on en parle, puis souvent c'est ça le sujet de la prédication. On va parler de la résurrection, c'est Pâques. Et c'est comme un peu relégué après la croix. Et tantôt, on va parler de l'ascension. Ça, c'est encore plus relégué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un message sur l'ascension. Je ne me rappelle pas à Saint-Jean qu'on a déjà eu un message sur l'ascension, qui est là aussi une doctrine importante, mais on va y arriver quand on va y arriver. Mais 42 fois dans le Nouveau Testament, 42 fois, le mot « résurrection » est mentionné. 58 fois, le verbe est conjugué, ressuscité. Et 4 fois, le verbe à l'infinitif « ressuscité » est mentionné aussi. Et à plusieurs reprises, je vous dis, dans Acte 2, on va aller voir dans Acte 2, c'est pas un hasard que le Seigneur est ressuscité. Acte 2 et au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. 3:15. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité. 5:30. Et là, je vais arrêter là. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est une action du Père si le Fils est ressuscité. C'est le Père qui a ressuscité le Fils, attestant non seulement son approbation, mais son sceau sur l'œuvre, mais il accepte le prix payé par le Fils. Il ressuscite des morts. Dans l'Ancien Testament, ça dit que son corps ne verra pas la corruption. Je ne sais pas si les disciples se sont demandé, d'abord s'ils connaissaient le verset, et je me demande s'ils se sont demandé, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Dans combien de temps ça va arriver? Est-ce qu'il anticipait? Pourtant, le Seigneur avait clairement dit à plusieurs occasions qu'il allait ressusciter. Est-ce que les disciples ont compris ça? On a lu tantôt 1 Corinthiens 15, et au verset 5 de 1 Corinthiens 15, ça dit « Il est apparu à Céphas » 1 Corinthiens 15, verset 5, « Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. » Vous savez, quand on affirme que le Seigneur est ressuscité, c'est pas quelque chose que... c'est pas une légende. Probable. Il y en a qui disent ça. Ça aurait l'air que... Écoutez, il y en a 500, là, peut-être 520, là, je ne sais pas exactement, là, mais il y en a plus de 500 qui l'ont vu de leurs yeux ressuscité. Allez interroger ces gens-là, et c'est pas un complot, là, c'est pas une histoire de complotisme. Ils ont vraiment vu le Seigneur Jésus ressuscité. Ça ne nous dit pas qu'ils ont eu des conversations intimes avec lui. Les disciples ont eu des conversations intimes avec lui. Le Seigneur a pu dire à Thomas, « Mets ton doigt dans ma main. » Il a mangé avec eux du pain et des poissons. L'authenticité de la résurrection est absolument certaine. Écoutez, pour faire ce qu'ils ont fait après, plusieurs sont morts martyrs. On n'a qu'à penser à Paul, à Pierre, à Étienne. Je veux dire, tu ne donnes pas ta vie comme ça pour un arnaque quand tu sais que c'en est une. Tu sais, si tu sais que ce n'est pas vrai, là, à un moment donné, tu débarques. Mais eux étaient profondément convaincus. Et nous aussi, on est profondément convaincus et on ne l'a pas vu physiquement, mais on sait, on a cette conviction que le Seigneur est ressuscité. On n'est pas dans un conte de Walt Disney, là. On n'est pas dans de la mythologie. On est dans la réalité, on est dans la vérité. Ta parole est la vérité et la parole nous dit que le Seigneur est ressuscité. Écoutez, c'est un appui, un témoignage absolument essentiel et très solide à la doctrine de la résurrection. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » C'est quand même assez tragique hein, de lire ça, parce que ça dit, on n'est pas surpris, mais Paul parle aux croyants et il dit, « Affligez-vous pas si quelqu'un décède, quelqu'un qui est dans le Seigneur, soyez pas comme toutes les autres qui n'ont pas d'espérance. » Ils n'ont pas d'espérance. Nous, on a cette espérance, cette certitude, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Avez-vous cette conviction-là, mes frères, mes sœurs, dans l'autorité de la parole de Dieu, dans l'exactitude de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un près de nous décède ou s'endort, écoutez, ça m'est arrivé de faire des funérailles d'un croyant. C'est pas drôle, là, tu sais, c'est pas quelque chose... on n'arrive pas là avec un petit chapeau, puis c'est pas ça, là. On est quand même dans l'affliction. On a de la peine d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime. Mais on a cette certitude-là qu'on va le ou la revoir un jour au ciel. Et quelqu'un m'a dit... Quand Louise est décédée, ma première épouse, quelqu'un m'a dit, une fille avec qui je travaillais, a dit, elle était jeune quand même, Louise, 51 ans, je pense, « Est-ce que tu en veux à Dieu? » Et j'ai dit, « C'est sûr. » Elle a dit, « Mais semblait. » Elle a dit, « Tu peux pas... » Non, mais j'ai dit, « Moi, j'en veux à Dieu, parce que c'est pas moi qui a pris. J'aurais aimé ça qu'il vienne me chercher moi. » Pas Louise, tu sais, c'est elle, la chasseuse, là, qui est rendue au ciel. Avec Dieu pour toujours, dans l'éternité, dans la gloire. Puis là, elle dit, Ouais, OK. Mais vous savez, ne vous affligez pas, parce qu'on a cette certitude-là, cette projection-là, qu'un jour, non seulement on va les revoir, mais qu'aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Ils sont dans la gloire. Écoutez, c'est une promesse. La résurrection du Seigneur n'est pas simplement un fait qu'on regarde de façon extérieure. Dire, ça y est arrivé à lui, c'est bien le fun. Non, ça va m'arriver à moi aussi. Sa résurrection est les prémices de ma propre résurrection. Et comme j'ai dit, ça l'a complètement transformé la vie des croyants. Pierre, dans Jean 21, après la mort du Seigneur, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ça, c'est avant que le Seigneur ressuscite. « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pierre était retourné pêcher. Le Seigneur est mort, son maître, son enseignant est mort. C'est plate parce qu'il y avait des espoirs. Et ils l'ont enterré, mais ils l'ont mis d'un tombeau. Fait qu'on va retourner faire ce qu'on faisait avant. Lui, il est retourné, il pêchait. Fait qu'il est retourné pêcher. Et les autres ont dit, bon, il y a nous autres ici. On ne peut rien faire ici. On va y aller. Ça, c'est avant la résurrection. Leur espérance était vide. Mais après la résurrection, acte 17, verset 6, il est question des croyants, pas juste de Pierre, et c'est dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ça, c'est les croyants. C'est nous autres, ça. Mais là, c'est eux, là, dans le temps du livre des Actes. Mais nous, là, est-ce que les gens à Sainte-Marie parlent de l'Église ici en disant ces gens qui bouleversent, peut-être ça va arriver là, avec le projet Mario, ces gens qui bouleversent Sainte-Marie, ils ont bouleversé le monde. Est-ce que vous êtes bouleversés dans votre vie par la résurrection, par cette vie nouvelle, par cette croyance, par cette assurance, par cette audace? De vivre l'Évangile. C'est ça qui a c'est comme ça que les gens ont été transformés. Et Pierre a affronté les magistrats, il a affronté la prison. Regardez, il n'y a plus rien qui comptait, là. Parce qu'il y avait la conviction. Fini la pêche, là. Il y a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 28. Allez, faites des disciples. Et c'est ça, quoi. Une des travaux qu'on a à faire, c'est d'aller et de faire des disciples. Et je vous lis un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, pour insister sur l'importance théologique de la résurrection. Je ne le retrouve pas. Je vais aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 encore. Exactement. C'est 25, en fait. C'est encore, dans Romains 4, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. La justification, on est justifié devant Dieu, c'est grâce à la résurrection. La croix couvre les péchés, mais la résurrection nous donne la justification. Et ça, la justification, ça se fait instantanément. Je ne suis plus capable, moi, de faire ça. En tout cas, j'aimerais ça, mais je ne suis pas capable. Ça se fait instantanément. Ça s'appelle l'imputation. La justice du Seigneur nous est imputée aussitôt qu'on croit. C'est différent de la doctrine de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne que la justification est infusée au travers des sacrements. Donc, tranquillement, infusée. On ne sait pas encore si on l'a, on ne le sait jamais, en fait. Ça se fait... Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne qu'au travers de la résurrection, notre justification est instantanée. On est justifié devant Dieu. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 16, « Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Vous rendez compte? Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Oui, la croix est essentielle, mais la résurrection est absolument essentielle aussi. C'est une doctrine de base. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On est mieux de s'en aller puis d'aller au restaurant de suite parce que ça ne donne rien. On perd notre temps. Notre foi est vaine, mais Christ est ressuscité. Mais vous savez, ce n'est pas une doctrine qui est populaire. Et elle ne l'était pas non plus dans le temps de l'apôtre Paul. Quand Paul a parlé à Athènes, acte 17, « Lorsqu'ils eurent entendu parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Il ne faut pas s'attendre que les gens vont tomber à terre et vont dire, « Wow! » Si j'avais su ça avant, je me serais converti. Ça n'arrivera pas. C'est depuis toujours que les gens sont réfractaires. Et je peux comprendre aussi. Je peux comprendre. Il faut vraiment que la foi vienne illuminer le cœur pour qu'on puisse adhérer à ces vérités. Parce que, tu sais, c'est pas rien là, de dire, de déjà aller d'un salon funéraire. Tu vas faire tes condoléances, tu vois la personne qui est décédée dans le cercueil, puis après ça, tu vas dans la petite salle, puis, ouf, il arrive. Tu sais, tu te dis, wow, que c'est ça, là? Ah, le mort qui vient s'asseoir à côté de moi, tu sais, ça... Tu pognes de quoi, là? Tu sais, c'est... Je peux comprendre, là, tu sais, que c'est pas une doctrine qui est... à la droite du Père. Mais là aussi, tu sais, imaginez quelqu'un qu'on voit monter au ciel. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis bien en train de voir ça, moi, là? Quelqu'un qui... Mais c'est ça qui est arrivé aux disciples. Ils l'ont vu monter au ciel. C'est l'ascension. Marc 16, verset 19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Luc aussi le rapporte dans son évangile, à la fin de son évangile, et il le rapporte deux fois, à la fin de son évangile et dans le livre des Actes. Et c'est dans le livre des Actes qu'on voit l'ascension. On va le lire. Acte 1. Et au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, comprends, c'est qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » 40 jours après sa résurrection, le Seigneur est enlevé au ciel. Il retourne dans sa maison. Et là, il retourne assis à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il est assis dans la gloire. Il n'a plus l'air du monsieur sur une croix qui avait l'air faible, qui avait, comme on a lu ce matin, que Dieu le délivre s'il l'aime. Quelle insulte! Quelle insulte pour Dieu, le Père! Je ne sais pas comment il a fait pour résister à ça, pour dire, une chance, t'as pas moi, parce que je vais vous le montrer, je te l'aime, vous allez voir, là. Mais le Père a résisté, mais là, il retourne au ciel dans la gloire. Et à partir de ce moment-là, amené jusqu'ici, on a parlé du passé. Le Seigneur a descendu, toujours, il a toujours descendu. Il est descendu dans la mort, il est descendu dans le tombeau, et la résurrection l'a ramené, mais là, il remonte. Il remonte au ciel. On débute sa remontée. Et là aussi, on est devant un fait réel, qu'il est assis à la droite de Dieu. Romains 2, 33, Romains 8, 34, Éphésiens 1, 20, Hébreux 1, 3, 13, 10, 12, 12, 2, et fut enlevé au ciel. C'est différent de Enoch, c'est différent de Élie, qui eux aussi ont été enlevés au ciel. Mais lui, il a été enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. La droite, c'est l'endroit où un monarque ou quelqu'un d'important assis quelqu'un à sa droite, il en fait quelqu'un d'important. Il est assis à la droite de Dieu. Il a l'autorité. Il est près de Dieu. Le Seigneur a dit dans Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Non seulement je sais que le Seigneur est vivant aujourd'hui, hein? Il est vivant, il est dans un endroit bien précis, il est monté au ciel. Le ciel, vous savez, ce n'est pas une fabulation, là. On va aller au ciel. Oh, c'est une belle pensée, ça. Non. C'est un vrai lieu, là. Et je sais que c'est en haut. À chaque fois qu'il y a question du ciel, c'est toujours en haut. Je sais que c'est en haut. Je ne sais pas c'est où. Troisième ciel, hein, après. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est un vrai lieu. Et le Seigneur le précise en disant, « Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, je vais revenir et je vais venir vous prendre pour vous amener à votre... » Trois endroits dans le Nouveau Testament. Ici, là, dans Jean 14, il est question de l'enlèvement. Hein? « Je viendrai et je vous prendrai avec moi. » Dans 1 Thessaloniciens 4, aussi, il est question de l'enlèvement. Et dans 1 Corinthiens 15, il est question de l'enlèvement. Ce n'est pas une doctrine sans appui, mais c'est une doctrine qui est forte, que le Seigneur va revenir et va nous prendre avec lui un jour. Est-ce qu'on a besoin d'être rassuré? Vous savez, moi j'aime ça quand je sais que des gens prient pour moi ou intercède pour moi. Vous savez, ça nous fait du bien. On a ça à Saint-Jean, je ne sais pas si vous avez ça, la famille de la semaine. Une famille, je ne sais pas c'est qui cette semaine, pas là, mais il y a une famille la semaine. Donc, on encourage, par exemple, cette semaine, c'est Mario, on encourage l'Église à prier pour Mario. Mario exprime ses reconnaissances, ses actions de grâce, ses prières, ses sujets de prière, et les gens savent et ils prient pour lui. C'est le fun de savoir ça. Ça ne veut pas dire que les autres semaines, on oublie Mario et on ne prie pas pour lui, mais on sait que cette semaine-là, particulièrement, l'Église prie pour nous. Mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Romains 8, 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » J'aime beaucoup l'Église où je vais. Je suis content qu'il prie pour moi. Mais il y a mieux que ça. Il y a le Fils dans le ciel, à la droite de Dieu, qui est vivant et qui intercède pour moi. Pourtant, je n'y dis pas toujours c'est quoi mes luttes, c'est quoi mes combats, c'est quoi mes... ce que je vis. Il le sait. Il voit dans mon cœur. Et il le sait. Et vous savez, il ne regarde pas ça en se disant, j'espère que ça va bien aller. Il intercède pour nous. Marc 16, verset 20, à la fin de l'évangile de Marc, il s'en allait prêcher partout. Avez-vous l'impression des fois que c'est difficile, le travail, l'évangélisation, de maintenir notre témoignage chrétien, notre service chrétien. Le verset continue en disant, « Ils allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. » Il n'est pas à la retraite dans le ciel. Il continue d'intercéder et de travailler avec les disciples. C'est nous, ça. On n'est pas seul dans notre service. Le Seigneur travaille avec nous. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dira, « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » On n'est pas seul. Quelle assurance est-ce que ça nous donne? Et là, il faut que je me dépêche, là, parce que le temps file. Mais je lis un dernier verset en rapport avec... cette pensée que le Seigneur est au ciel, dans Colossiens 3, 1, ça dit « si vous êtes ressuscité avec Christ ». C'est intéressant en français parce que le mot « si », c'est une conjonction qui exprime soit un doute, si Nelson prend du poisson, Lucie va en manger. Ça, c'est un doute. Ben, je pense qu'il va en prendre, mais on n'est pas certain de ça. « Si » peut exprimer un doute. Où il peut exprimer exactement le contraire, une certitude. Et ici, dans Colossiens 1, si vous êtes ressuscité avec Christ, Paul n'est pas en train d'exprimer un doute. Peut-être que vous êtes du fait que, ça pourrait être traduit par du fait que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ça, c'est notre responsabilité. Parce qu'on est ressuscité avec Christ, oui, nos corps vont éventuellement... D'abord, on va d'abord mourir, puis peut-être... Moi, j'aimerais mieux être enlevé, mais probable, c'est beau. Mais si on meurt, on sera ressuscité. Mais actuellement, on est déjà ressuscité. Notre vie en Dieu, on est ressuscité, on vit pour Dieu, et il faut chercher, aller chercher les choses d'en haut, vivre pour les choses d'en haut. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui? Et ça n'exclut pas les bonnes choses qu'on fait sur la terre. Ça n'exclut pas ça, là. Ça n'exclut pas qu'il faut être des moines, puis faire un monastère à Sainte-Marie, vivre tout là-dedans, puis pas manger beaucoup, puis... C'est pas ça. Mais que notre cœur soit attaché aux choses d'en haut. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Bien là, tout ce qu'on a vu, là, c'est soit passé ou présent. Mais là, on regarde vers l'avenir. C'est ce qu'en théologie, on appelle ça l'eschatologie. C'est un grand mot. Eschatologie, ça veut dire ce qui s'en vient. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Écoutez, ça fait référence au moment du retour de Jésus-Christ en gloire. Pas l'enlèvement. On croit que le retour se fait en deux phases. Une première phase invisible pour l'Église, où le Seigneur vient chercher son Église. Elle est enlevée. Écoutez, on a un groupe maison, on appelle ça le groupe de Cap-Rouge. On est 6-7 couples, je pense. Et j'ai envoyé un courriel, parce qu'après-midi, on a une réunion, et personne ne m'a répondu. Là, je disais à Christine, je dis, pour moi, l'enlèvement a eu lieu, puis je ne suis pas parti. T'sais, ils ne m'ont pas répondu. Mais l'enlèvement aura lieu en deux phases. Une première phase où il vient chercher son Église. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne revient pas sur la terre. Et on pense que cette période-là dure 7 ans, les noces de l'agneau. Et à la fin, le Seigneur revient en gloire. Il ne revient pas comme un agneau. Regardez sa description dans Apocalypse 1, dans Apocalypse 19, quand il revient sur un cheval blanc, il revient pour juger les vivants et les morts. Parce qu'il y aura des personnes qui seront vivantes à ce moment-là, et il y aura bien sûr des morts, mais le jugement aura lieu. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour certains, ça va venir rapide, pour d'autres, ça va être plus long. Mais vous savez que nous, on sera jugés, pas pour savoir si on est sauvé ou pas sauvé. 2 Corinthiens nous dit qu'on doit tous comparaître devant le tribunal de Christ, où nos œuvres et nos pensées seront évaluées. Notre service chrétien sera évalué. Ah oui, tu as fait toutes sortes de bonnes choses, mais tu le faisais parce que tu voulais bien paraître. Le Seigneur va tout voir ça, là. Il va tout voir. Et moi, des fois, là, tu sais, de penser que je suis devant lui et que ma vie défile, pas pour lui, parce que lui, elle connaît, mais pour moi, pour que je la revoie et que je revoie les moments que je n'ai pas envie de voir puis que j'ai envie de dire au Seigneur, « Peux-tu ôter ça, ce bout-là? » Puis il va dire, « Non, on ne peut pas ôter ça, ce bout-là, ça fait partie de ta vie. » Mais il n'y a pas juste des mauvais bouts, hein, il y a des bons bouts aussi, là. Mais on va aussi paraître devant le tribunal de Christ. On va... Mais pas pour savoir si on est sauvé ou pas sauvé. Mais ça, là, ça... quand on regarde dans Apocalypse 20-21, où on voit le Seigneur revient et juge. Et vous savez, le jugement de Dieu est absolument parfait. Il n'y aura pas besoin de reprise vidéo. Vous dites, on va checker, voir si, comment tu as fait ça, si c'était bon, si c'était... Il n'y a pas de reprise vidéo, là. Il sait exactement, il y a un jugement impeccable, juste, parfait, sur tout le monde, incluant nous, lors du tribunal de Christ. Et les gens veulent la justice, ils vont obtenir la justice. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la justice. Ils sont privés de la gloire de Dieu, éternellement. Et ça nous donne du zèle. Tu sais, je n'ai pas envie que ceux que j'aime, ceux que je côtoie, je n'ai pas envie que ces gens-là vivent ça. Je vous ai dit que j'ai déjà prêché pour des funérailles et ça m'est arrivé des gens qui m'ont demandé de prêcher pour... des funérailles que pas certains du tout, là, tu sais, que la personne qui est soit dans la petite boîte ou dans le cercueil, qui est sauvée, tu ne dis pas la même chose. Tu ne peux pas dire la même chose. Et on ne peut pas dire devant la famille, d'après moi, c'est fait, il n'est pas sauvé, il va être jugé, il va aller en enfer. On ne peut pas dire ça, là, tu sais, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça, vraiment, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance. Zéro chance On ne peut pas dire, peut-être, il y a peut-être un 10-15%. Non, non, zéro chance, zéro open bar. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Et quand le Seigneur va revenir, il va séparer le l'ivraie d'avec le blé. Il va séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. C'est comme ça. Et ça, ça nous donne du zèle pour annoncer l'Évangile. Et pour nous, je termine avec ça avant que tu fermes le micro, là. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Quand on dit qu'il reviendra juger les vivants et les morts, ça fait référence au moment où il va fouler sa colère. Nous, on n'est pas destinés à la colère, mais à la vie éternelle en lui. Et ça, les premiers chrétiens, ils savaient ça. Ils savaient ça. Ils comprenaient ça. Et souvent, de réciter ça publiquement, il y avait quelqu'un au bout qui disait, viens ici, toi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est ça. Il y avait des conséquences. Nous, on n'a pas encore ces conséquences-là. Peut-être qu'à un moment donné, dans notre pays, on aura ça, mais on n'est pas rendu là. On va prier. Notre Dieu est Père, encore une fois, on est reconnaissant pour votre parole qui nous assure et qui nous rassure qu'on n'est pas destiné à la colère. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le méritait pas. Ce n'est pas parce que la colère n'est pas tombée. C'est parce que la colère est tombée sur la personne bénie de votre Fils. Merci de ce que nous avons l'assurance qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il est à votre droite et qu'un jour il reviendra. Mais avant de revenir pour juger, il va revenir nous chercher. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, amen.